7 milliards de voisins, on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
Anastasie Tudiège.
Bonjour les voisines et les voisins, ravis de vous retrouver de Poto-Poto à Ottawa en passant par Nice ou Paris 15. On est ensemble, comme on dit à Abidjan, par les ondes ou par le net, www.rfi.fr. Et ça, c'est du lourd, comme dirait le rappeur Abdal Malik. Aujourd'hui, les voisins, nous allons nous intéresser à une entreprise qui ne connaît pas la crise. Les jeux en ligne, les jeux d'argent en ligne sont légaux en France depuis l'adoption de la loi du 6 avril 2010 qui ouvre à la concurrence le marché des jeux d'argent en ligne sur tout le territoire français. Selon le dernier rapport de l'Observatoire des Jeux, paru la semaine dernière, le jeudi 16 avril, très précisément, 56,2% des Français a joué au moins une fois à un jeu en 2014, alors qu'en 2010, il n'était que 46,4%. L'étude souligne également que non seulement les Français jouent plus, mais en plus, ils dépensent plus. La part des joueurs dépensant dans l'année plus de 1 500 € est passée de 1,8% à 7,2%. La crise connaît visiblement pas. Et autre phénomène en inflation, la pratique des mineurs. Les 15-17 ans, précisons que les jeux d'argent en ligne ou pas leur sont interdits, jouent eux aussi de plus en plus. Parmi les activités principalement pratiquées par les jeunes, les jeux de grattage, les paris sportifs et les jeux de tirage. Que représente l'industrie du jeu, économiquement d'abord, socialement ensuite? Les réponses à ces questions nous indiqueront sans doute la portée et l'efficacité des mesures prises pour protéger les joueurs. Parce que les voisins, vous l'avez peut-être expérimenté, ce plaisir, cette détente peut virer au cauchemar pour le joueur, mais aussi pour son entourage. Nous tâcherons également d'appréhender qui sont ces joueurs fragiles, comprendre le mécanisme de l'addiction pour mieux le prévenir, peut-être avec nous, pour aborder ce sujet qui dit tant de nous, les voisins en tant que société au pluriel. Trois invités, en duplex depuis Reims, Stéphane Dehoul, bonjour.
Bonjour.
Psychologue, spécialiste de la cyberdépendance et des addictions comportementales. En studio avec nous à Issy-les-Moulineaux, Charles Coppolani, bonjour.
Bonjour.
Président de l'autorité de régulation des jeux en ligne, l'ARJEL, créée en 2010 dans la foulée de la loi autorisant les jeux en ligne. La mission de l'ARJEL, c'est justement réguler les jeux d'argent sur Internet en France. Et puis, au téléphone également, Pierre Perret, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le fondateur de l'Institut du jeu excessif. Merci à vous trois d'avoir répondu à notre invitation. Le moins que je puisse dire, les voisins, est que le sujet ne vous laisse pas indifférent. Petit florilège de vos réactions sur la page Facebook de 7 milliards. Mao Dongon Anjamena, c'est au Tchad, nous dit « Les jeux en ligne sont des pratiques très dangereuses. La plupart des joueurs se font arnaquer. Il y a très peu de chances de gagner. C'est ce qui permet aux entreprises qui organisent ces jeux de s'enrichir sur le dos des parieurs qui sont souvent issus des milieux déjà très défavorisés. » Souleymane Chérif à Conakry en Guinée lui dit « Je parie sur le football chaque semaine sur tous les championnats européens. J'aime parier car j'ai une infime chance de gagner quelque chose. » Et enfin Bertrand à Douala, c'est au Cameroun, nous dit « J'ai un cousin qui n'a plus son cerveau à cause des paris en ligne. Il était un commerçant bien riche. Il a commencé à jouer et gagner de petits lots de temps en temps, puis de gros lots. Et plus tard, ignorant que son nombre de chances était limité, il continuait à jouer et ne gagnait plus rien, sans même s'en rendre compte parce qu'il était déjà noyé. Alors il a continué à miser gros jusqu'à épuisement total de son fonds de commerce, puis a vendu tout ce qu'il possédait sans s'abstenir. Aujourd'hui, il n'a plus rien et délire d'ailleurs. » Ceux qui ne le connaissent pas pensent qu'il a été envoûté par ses concurrents, mais nous, membres de sa famille, nous connaissons quelle est la source de son mal. Moi, je condamne les jeux de hasard en général. Nous, les voisins, nous ne condamnons pas, nous essayons de comprendre, ce qui me semble un peu plus productif. Continuez malgré tout de nous manifester vos interrogations, indignations ou témoignages sur la page Facebook de l'émission ou au standard 33 1 84 22 71 71. Nous vous espérons. Je précise qu'en deuxième partie d'émission, nous irons à Johannesburg, en Afrique du Sud, et aurons le témoignage de Lisa Fabian, notre correspondante à Johannesburg, qui nous parlera de la gestion sud-africaine très stricte des jeux en ligne. Pour le moment, retour à la France. Charles Coppolani, pourquoi les jeux en ligne ont-ils été autorisés?
Alors, les jeux en ligne ont été autorisés en 2010, oui. Pour plusieurs raisons. La première raison, c'était que Il y avait une offre importante de jeux qui n'était pas régulée, qui était une offre donc illégale et qui touchait énormément de Français. La deuxième raison, c'était effectivement la pression de la Commission européenne qui considérait que interdire les jeux en ligne était une restriction à la liberté du commerce. Et donc c'est la raison pour laquelle en 2010, le législateur a autorisé les jeux en ligne. Pour autant, il n'a pas autorisé tous les jeux en ligne.
Justement, quels sont ceux qui ont été autorisés et quels sont ceux qui sont prohibés, peut-être durablement ?
Alors, le législateur en 2010 a autorisé trois types de jeux. Les paris sportifs, les paris hippiques et, dans ce que l'on appelle les jeux de table, le poker. Donc tous les autres jeux sont interdits en ligne.
Et ils le seront pour toujours, ou bien certains, alors moi je me suis laissé dire que certains pourraient, comme je ne sais pas, le Rami par exemple, pourraient être autorisés un jour.
Alors écoutez, tout cela dépend bien évidemment du législateur, donc ne dépend pas de l'Argel. Il peut y avoir une évolution. De toute façon, il est clair que sur la durée, les jeux vont évoluer. Et sans doute, l'offre devra-t-elle s'adapter.
Qu'est-ce qui a fait que ce sont ces jeux-là et pas d'autres qui ont été sélectionnés ?
Alors, je pense que ce qui a conduit effectivement à faire ce choix relève de plusieurs éléments. Le premier élément, c'est que tant en ce qui concerne le pari hippique que le pari sportif, il y avait en France une tradition. D'abord sur le pari hippique, il y a une tradition qui est très ancienne d'offres sur le réseau physique. Sur le pari sportif, c'était la même chose. Il y avait effectivement une offre de la Française des Jeux. Et le poker correspondait aussi à un jeu très pratiqué.
Donc c'est la longévité ou peut-être la présence dans la culture de jeu des Français qui a présidé à la sélection.
Sans aucun doute. Et ensuite, par rapport aux autres jeux, et notamment à un jeu qui est très dangereux, qui est la machine à sous, ces jeux présentaient certainement moins de dangers. C'est la raison pour laquelle je crois que le législateur s'est concentré sur ces jeux-là.
Je me demande ce que Pierre Perret, fondateur de l'Institut du jeu excessif, pense de la faible nocivité des jeux qu'on vient de nous exposer. Pierre Perret.
Monsieur Coppolani a parlé de la dangerosité des machines à sous. En fait, il faut parler de la dangerosité dès qu'il y a un jeu sur un écran vidéo. En fait,
c'est-à-dire, est-ce que vous êtes en train de nous dire que par définition, à partir du moment où un individu se retrouve face à un écran et qu'il est appelé à jouer, il y a danger ?
Oui, parce que le joueur est... Enfin, il y a des études qui ont été conduites sur ce sujet.
Oui.
Ils montrent qu'un joueur face à, sans regard d'autrui, sans présence extérieure, en bugne à bugne, si j'ose dire, avec son jeu, avec l'écran, développe beaucoup plus rapidement et insidieusement des phénomènes d'accoutumance. C'est, par exemple, sur le loto, par exemple, ou les paris hippiques, on a beaucoup moins de dangerosité, j'aime pas trop ce mot, mais de dangerosité dans le sens où entre la prise de pari et le résultat, il y a un espace de temps. Là, dès qu'on passe en écran vidéo, un joueur, en fait, constamment projeté sur une autre partie, il n'a pas le temps de digérer une partie, qu'il est déjà projeté dans l'autre, et il y a des expériences comme ça psychologiques qui sont très gratifiantes pour le joueur, qui le poussent à vraiment perdre la notion complètement du temps, et à s'installer très durablement dans des parties de jeu. Oui.
Charles Coppolani.
Et oui,
ensuite, Stéphane Daoul, j'aimerais avoir votre opinion.
Oui, effectivement, ce que dit Pierre Perret est important. C'est-à-dire c'est l'importance de l'image. Et ce qu'il désigne ainsi, c'est l'ensemble des jeux vidéo et jeux d'argent que l'on peut trouver notamment sur dans les casinos. C'est vrai que sur le pari hippique ou le pari sportif, l'importance de l'image est moindre.
Très bien. Stéphane Dehoul, jouer, par définition, est dangereux pour le psychologue que vous êtes ?
Non, jouer est nécessaire.
Jouer face à un écran, je veux dire.
Alors, jouer face à un écran, en tout cas, concernant la question des jeux d'argent, parce que je pense qu'il faut faire la différence entre ça et puis des jeux vidéo, parce que le terme a été prononcé. Les jeux d'argent sur un écran, effectivement, on n'a pas le regard de l'autre, donc il y a quelque chose qui est plus simple. Il y a l'accessibilité 24 heures sur 24 à ces jeux-là. Et puis, symboliquement, vous savez, quand on va dans un casino réel, on transforme son argent en jetons, on prend une distance avec cet argent, et bien sur les écrans, cette distance symbolique est encore plus importante. Donc on a peut-être plus tendance à
dépenser. Le fait de ne pas pouvoir matérialiser ce qu'on dépense peut être problématique.
Ben oui, c'est certainement plus problématique. Et puis, c'est vrai qu'en termes de conditionnement, du coup, on a une facilité plus grande à se conditionner sur ces jeux-là, sur un écran.
Voyons.
Mais le jeu en physique reste aussi, lui, peut être aussi problématique.
Voyons ce qu'en pense notre voisin Malolo. Il est à Pointe-Noire et il a appelé le standard de RFI, le standard de 7 milliards de voisins, 33 1 84 22 71 71. Bonjour Malolo.
Oui, bonjour, et bonjour 7 milliards de voisins.
Vous êtes le bienvenu. Nous vous écoutons.
Alors, je voulais intervenir parce que, à l'occasion, il m'est arrivé de m'inscrire sur un site de paris sportifs en ligne.
Oui.
Parce que l'inscription était facile, donc j'ai souvent parié pour des matchs de Ligue 1, mais je n'étais pas un gros joueur parce que je le faisais peut-être une fois par semaine.
Alors, vous avez souvent parié, est-ce que vous avez souvent gagné?
Alors, j'ai beaucoup plus perdu que gagné. Il m'est arrivé de gagner des petites sommes, mais j'ai plus perdu. Mais bon, je le faisais pour d'abord pour la passion, pour m'amuser. C'était pas vraiment parce que j'étais un gros joueur. Après, je fréquentais des cyber cafés où je partais pour jouer, mais il y avait des cyber qui étaient pleins d'enfants, parfois des mineurs, qui étaient devenus des joueurs invétérés, qui étaient habitués à cet appât du gain-là.
Et à cette adrénaline aussi que vous décrivez peut-être.
Oui, il y a tout ça, mais le côté un peu plus sombre que j'ai vu avec certains enfants qui jouaient, c'est que de ce jeu d'argent, de ce jeu de paris sportifs, il basculait vers la cybercriminalité, vers le phénomène qu'on appelle en Côte d'Ivoire le broutage, c'est-à-dire le fait de vouloir arnaquer pour avoir toujours plus d'argent, parce qu'ils étaient habitués déjà à des petits gains avec ces paris-là. Mais je pense que ça ne leur suffisait plus. Ils avaient envie de viser plus haut et de gagner plus gros. Voilà.
Donc ils se sont organisés pour gagner plus.
Voilà, justement.
Bon, très bien. Et merci beaucoup pour votre témoignage, Malolo.
Je vous en prie.
Bonne journée à vous à Pointe-Noire. Les voisins, faites comme Malolo, appelez 33 1 84 22 71 71. Soit que vous ayez vous-même été un joueur, soit que vous connaissiez des joueurs autour de vous, que vous aimiez ou pas, que vous pensiez que c'est une pratique finalement tout à fait comme une autre de loisir, ou bien au contraire que vous ayez un regard pour le moins distancié. Charles Coppolani, quelle réaction avez-vous?
Oui, une réaction. Je pense que ce joueur ne jouait pas sur un site français.
Évidemment, puisqu'il est à Pointe-Noire.
Non, mais il pourrait pour autant jouer sur un site français, puisque après tout, l'accès à Internet est mondial. Donc,
bon, ça, on ne sait pas. Peut-être qu'il a joué un peu sur des Français.
Mais je pense que ce qui me conduit à penser qu'il ne jouait pas sur un site français, c'est qu'il a dit que l'inscription était facile. Précisément, ce qui caractérise la régulation française, c'est que l'inscription et l'ouverture d'un compte joueur est un processus assez long, peut-être trop long d'ailleurs, puisqu'il faut environ un mois pour ouvrir un compte définitif. Alors bien sûr, on peut jouer avec un compte provisoire, mais à ce moment-là, on ne peut pas retirer d'argent. Donc voilà, ça c'est le premier point. Oui. Le deuxième point, c'est l'idée qu'effectivement, il y a beaucoup de mineurs qui jouent. Sur les jeux en ligne, c'est quelque chose qui est précisément bien contrôlé, puisque les opérateurs doivent contrôler l'identité des joueurs. Alors sur le réseau physique,
comment
ils s'y
prennent ?
Ah ben c'est très simple, puisque pour ouvrir un compte, vous devez communiquer vos pièces d'identité.
Bon, il suffit de prendre le passeport de son papa.
Oui, mais à ce moment-là, comme de toute façon pour activer le compte, vous recevez une lettre avec un code chez vous. Alors effectivement,
là, ça devient plus compliqué.
Ça devient plus compliqué. Et puis ensuite, il faut disposer aussi d'une carte bancaire ou d'un compte.
Ça peut arriver,
mais donc là, les trois éléments réunis font que le jeu des mineurs sur Internet en France est assez difficile.
Pierre Perret, le jeu des mineurs est difficile, mais celui des adultes aussi. Entre les joueurs plaisir et ceux qui passent de l'autre côté de la barrière, la barrière est assez fine justement. Le fossé n'est pas très grand.
Oui, tout à fait, elle est étroite. Et dans le jeu, la particularité du jeu, c'est que tout gros gain va surmultiplier les émotions.
Oui.
Et un joueur qui fait un gros gain, pratiquement signe, c'est ce que je pense, moi en tout cas, signe quasiment son entrée programmée
Dans la dépendance.
Dans l'accoutumance, en tout cas. Dans l'accoutumance, c'est-à-dire que le gain génère une euphorie telle et des sentiments de toute puissance, de plénitude, l'argent qui tombe du ciel, ça provoque des émotions très fortes. Et ça chamboule quand même la carrière dans le joueur durablement. Donc dans le jeu d'argent et de hasard, le gain vient transformer. Et si les joueurs s'accrochent autant, s'ils perdent autant, s'ils acceptent autant de perdre, c'est qu'ils savent à un moment ou à un autre qu'ils peuvent gagner. Et le joueur est un éternel optimiste qui est dans l'espérance éternelle. Et il s'accroche à cet espoir de gagner. Et le gros gain fait partie, est un puissant médiateur, oui.
7 milliards de voisins et la passion du jeu, mais tout de suite, c'est la musique du club des 7, ça s'appelle le parapluie.
Je sais qu'on m'attend au tournant, mais pour l'instant, je suis chez moi. Lorsque le ciel ne pleura plus, j'irai me chercher un chinois. Bien sûr que les types comme moi commandent toujours à emporter. Manger tout ça dans un resto, j'en vois pas vraiment l'intérêt. Autant me tatouer sur le front.
En ce moment, ça va pas fort.
Le jour où je pèterai les plombs, il y aura des morts et des renforts. Le ciel est une chochotte et je n'ai pas trouvé mon parapluie. Faut être tenté de se cacher dans l'intimité d'une jolie fille. J'espère qu'il s'y sent bien et qu'il n'est pas trop encombrant. Pas de soucis pour la fille, ne s'ouvre pas devant les gens, donc encore moins de temps. Et je me dis, finalement, j'ai un objet à mon image. Je l'ai perdu comme c'est dommage. C'est l'histoire d'un parapluie qui n'aimait pas trop s'ouvrir. Parce qu'il savait qu'en le posant, il risquait sûrement de souffrir. Un parapluie qui sert à rien, restant tout seul en son coin, en rêvant de soleil, même dans les instants sans sommeil. Un parapluie qui aurait aimé abriter un couple sur Broadway, qui n'avait jamais connu que le crash en Versailles. Mais assez parlé de lui dans cette histoire où je l'ai pas pris. C'était juste un meilleur sujet qu'on peut sauter au cul. Chemin, je n'y vois rien, il y a de la buée sur mes lunettes. C'est le moment de me croiser, je pourrais même te trouver chouette. Tout le trajet, je me demande si mon appart n'a pas pris feu. J'avais vérifié cette fois les plaques pour ne pas me sentir trop nerveux. Résultat, je le suis quand même, j'avance plus rapidement. À l'arrivée, aucun pompier en bas, quel soulagement. Mon chinois a pris froid, je le mange vite avant qu'il meure. Puis j'allume la télé afin de tuer quelques heures. Je n'y plus trop de lit, j'ai peur des points d'interrogation. Ce n'est qu'une des conséquences de te remettre mis en question. À une époque, j'avais un couple, je lui prêtais toute mon attention. Il y avait cette fille qui me parlait, elle disait même que j'étais mignon. Prends-moi pour un con, c'est ce qu'elle a fait très rapidement. J'aurais dû dire faisons l'amour, mais il est trop tard maintenant. C'est fini, elle est partie en emportant un parapluie. Car ce soir-là, le ciel pleurait, moi je ne faisais que le copier.
Le club des 7 dans 7 milliards de voisins avec leur parapluie et 7 milliards de voisins avec leurs joueurs. Aujourd'hui, nous parlons, les voisins, des jeux en ligne et de leur, et de ceux qui aiment ça un peu beaucoup passionnément à la folie. Charles Coppolani, vous êtes le président de l'ARJEL, l'autorité de régulation des jeux en ligne. Vous avez expliqué comment l'autorité protège les joueurs et du moins évite que les joueurs mineurs aient accès, mais il n'en reste pas moins que certains sites échappent à la vigilance de l'ARJEL. Je pense notamment à Casino 777, mais entre autres, et qui, par une espèce de système de harcèlement, reviennent régulièrement à la face d'individus qui ne sont pas forcément protégés. Qu'est-ce qu'on fait contre ça ?
Effectivement, il y a, et vous avez raison de le signaler, il y a effectivement une offre qui est illégale et qui, précisément, offre des jeux qui sont interdits en France. Alors que fait-on ? Nous faisons beaucoup, c'est-à-dire que nous avons effectivement une équipe qui passe ses journées à traquer ces sites illégaux et qui soumet cela à l'appréciation du tribunal de grande instance de Paris qui effectivement interdit ou plus exactement demande aux fournisseurs d'accès Internet de couper l'accès à ces sites.
Alors vraisemblablement ce sont des interdictions qui sont contournées puisque
ce sont des interdictions qui sont effectivement, qui peuvent être contournés parce que, comme vous le savez, il est très difficile de traquer l'offre illégale sur Internet. Et ce qui se passe, c'est que...
Ce qui se passe, c'est que vous allez nous expliquer tout ça plus clairement tout à l'heure, de l'autre côté du flash qui arrive, Charles Coppolani. Excusez-moi de vous interrompre. Le flash, les voisins, on se retrouve dans 3 minutes pour parler des jeux en ligne.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre à 7 milliards de voisins sur RFI. Aujourd'hui, nous parlons des jeux en ligne, ce loisir qui peut se transformer en douleur pour certains, mais pas tous. L'idée, évidemment, les voisins n'étant pas d'incriminer ceux qui aiment jouer, mais de bien comprendre quels sont les phénomènes en place, aussi bien pour ceux qui jouent que pour ceux qui jouent, jusqu'à la compulsion, jusqu'à oublier, à s'oublier eux-mêmes et oublier leur entourage. Qui dit jeu dit règle, et en France, il existe une autorité de régulation des jeux en ligne qui s'appelle l'Argel, et son président est l'un de nos invités. Les deux autres sont l'un psychologue et l'autre fondateur d'un institut du jeu excessif. Avant le flash, nous avons, je vous ai interrompu Charles Coppolani, vous nous expliquez comment l'Argel tentait de lutter aussi contre les propositions indélicates et le harcèlement, disons-le clairement, que certains joueurs peuvent vivre.
Alors effectivement, ce harcèlement, il peut être vécu par du fait de sites illégaux.
Oui.
Donc notre action contre les sites illégaux se manifeste d'abord, il faut que nous les trouvions, ces sites illégaux, donc nous les cherchons. Nous nous assurons que ces sites illégaux font une offre pour des joueurs français. Une fois que nous avons fait cette constatation, nous saisissons le tribunal, qui est seul habilité à demander aux fournisseurs d'accès Internet d'interdire, plus exactement, de couper l'accès Internet à ces jeux.
Pierre Perret, est-ce que ça vous paraît suffisant jusque-là ?
Disons que dans l'esprit, la loi est très bien faite. En France, c'est vrai qu'on oublie de le dire, on a un système qui fonctionne très bien. Alors j'allais dire qu'il fonctionnait très bien avant cette loi.
Avant 2010.
La loi aussi est pleine de bonnes intentions. Et c'est vrai qu'il est plus intéressant d'un point de vue, j'allais dire, psychique ou santé morale pour un joueur de jouer sur un site agréé que sur un site non agréé où effectivement là on navigue plutôt en pleine jungle. Donc c'est vrai que le jeu est un produit pas comme les autres, donc il y a nécessité forcément, j'allais dire, d'encadrer, de réguler au maximum.
Mais est-ce que vous pensez que ce qui est fait aujourd'hui est suffisant?
C'est-à-dire que le problème, si vous voulez, c'est que la nature a horreur du vide. Mmh. Donc, à partir du moment où il y a des sites légaux qui imposent des taux de retour aux joueurs, enfin, il y a une mécanique bien huilée dans la redistribution des gains, il y a des sites illégaux qui savent bien qui vont offrir plus en retour aux joueurs. Et le joueur, lui, il défend avant tout son intérêt. Lui, peut lui importe de savoir s'il est agréé ou pas. Si le joueur a des bonus ou s'il sait qu'il a un taux de retour au joueur qui est plus important que sur des sites légaux, le joueur lui défend son beefsteak et souvent il va là où la mariée est la plus belle, quoi.
Mais est-ce que ça n'est pas lui le beefsteak à la fin quand il va sur un site illégal? Comment lui faire comprendre alors?
C'est lui le gogo. C'est-à-dire que le joueur, c'est un compétiteur. Donc lui, il regarde si on lui donne des bonus, plus on le sollicite, plus on le cajole. Plus il est attentif. Hein.
Full sentimental, c'est la manière dont on parle aux gens. Charles Coppolani.
Juste une comparaison. Jouer sur un site illégal, c'est comme si vous donniez votre numéro de carte bancaire à quelqu'un que vous rencontrez dans la rue et que vous ne connaissez pas. C'est exactement ça. Je pense que vous ne le ferez pas. Et donc, il ne faut pas le faire sur Internet. Donc, je crois que c'est vraiment un point très, très important, n'est-ce pas ? Jouer sur des sites illégaux, c'est jouer sans garantie.
Je vous l'annonçais en début d'émission, nous allons voir aussi, puisque nous sommes 7 milliards de voisins, l'expérience des uns et des autres peut profiter à chacun. La loi sud-africaine est particulièrement restrictive concernant les paris en ligne. Ceux-ci sont en fait totalement interdits dans le pays. Et au mois de janvier, le gouvernement a rejeté un projet de loi visant à légaliser et réglementer le jeu d'argent en ligne. Une position qui est loin de satisfaire tout le monde. Bonjour Lisa Fabian.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondante à Johannesburg. Alors d'abord, Lisa, oui. Que dit la loi sud-africaine sur les jeux en ligne aujourd'hui ?
Eh bien, la loi sud-africaine encadre sévèrement les jeux d'argent en ligne. Les jeux de casino, le poker ou le bingo sont interdits. En revanche, les paris sportifs sont autorisés dans un certain cadre, tout comme les paris hippiques sur Internet. En fait, la réglementation sur les jeux d'argent en ligne n'a fait que se durcir au fil des années en Afrique du Sud. En 2010, le gouvernement a interdit les jeux d'argent, même sur les sites dont les serveurs sont hébergés en dehors d'Afrique du Sud.
Lisa, pourquoi la réglementation est-elle si stricte là-bas ?
Alors d'abord pour protéger les mineurs et les personnes vulnérables qui pourraient devenir accros à ces jeux d'argent, c'est ce que dit la loi. Mais plus important, le gouvernement sud-africain n'a pas actuellement les moyens nécessaires pour contrôler ce secteur d'activité qu'on dit gangréné par le crime. Les jeux d'argent en ligne serviraient notamment à blanchir de l'argent ou à financer des activités illégales. Du coup, le gouvernement a juste choisi de les interdire.
Oui, alors sauf que cette position fait débat aujourd'hui. L'Alliance démocratique, qui est le principal parti d'opposition sud-africain à tendance libérale, a déposé récemment un projet de loi pour légaliser les jeux d'argent en ligne. Mais cette proposition a, elle aussi, été rejetée donc en janvier dernier. Quel est le problème ?
Alors à la base, cette réglementation stricte sur les jeux d'argent en ligne allait dans le sens de l'association sud-africaine des casinos, puisqu'elle lui assurait le monopole sur les jeux d'argent dans le pays. Mais avec l'explosion du nombre de sites de jeux en ligne et surtout avec la démocratisation de l'accès à Internet dans les foyers sud-africains, eh bien l'industrie des casinos, qui était jusque-là en pleine croissance, a commencé à décliner. Les chiffres sont en fait assez spectaculaires, puisqu'en 2012-2013, l'industrie des casinos affichait une augmentation de 10% de ses revenus par rapport à l'année précédente. Ils ont ensuite complètement stagné en 2013-2014. Du coup, l'association sud-africaine des casinos veut maintenant que les jeux d'argent en ligne soient légalisés, contrôlés et surtout taxés.
Oui, effectivement, les jeux d'argent illégaux font en fait perdre de l'argent à l'État. Si j'ai bien compris.
Absolument, puisque oui, absolument, les tenants de la légalisation soulignent d'ailleurs que celle-ci permettrait d'augmenter les recettes fiscales de l'État. Ils dénoncent une loi qui est impossible à appliquer en l'État, puisque l'accès à ces sites internet illégaux est de plus en plus banalisé, notamment dans certains cybercafés. Mais le problème, c'est que le ministère du Commerce et de l'Industrie ne partage pas du tout ce point de vue. Il a rejeté ces arguments en janvier. Il a fait savoir au contraire qu'il n'y avait aucun projet de légaliser les jeux d'argent en ligne en Afrique du Sud pour le moment.
Affaire à suivre donc en Afrique du Sud. Merci beaucoup à vous Lisa Fabian. Je rappelle que vous êtes notre correspondante à Johannesburg. Belle journée à vous.
Merci.
Réaction des uns et des autres. Je vais commencer par Pierre Perret.
Oui, mais c'est pas de...
Est-ce que la France devrait prendre exemple sur l'Afrique du Sud et être beaucoup plus restrictive, circonspecte?
Après, est-ce que le régime de la prohibition est efficace? L'expérience montre pas trop. Ce qui est sûr, c'est que vraiment le jeu est, comme je le disais tout à l'heure, une industrie pas comme les autres. Et qui impacte quand même sur la santé, alors financière, c'est sûr, mais sur la santé morale et psychologique, même sur la vie psychique de 3 adultes sur 5, il y a 30 millions de joueurs en France. Donc c'est clair que s'il est un marché qui doit bien être encadré avec des... notamment cette question de l'interdiction aux mineurs qui est quand même essentielle, puisqu'aujourd'hui on sait quand même que les mineurs malgré tout arrivent à passer à travers les mailles du filet, donc on fabrique des bataillons de nouveaux joueurs, de joueurs un peu compulsifs qui peuvent se mettre en tête que si j'ai gagné 1000 euros à 17 ans grattant, bah peut-être que ma vie mon avenir il est peut-être là. Donc ça c'est des questions qui sont quand même essentielles, et c'est vrai que le marché sera régulé, encadré, surveiller, mieux le joueur y trouvera son compte, sans compter que l'État a bien compris que le jeu, c'est le plus bel impôt qu'on ait jamais trop inventé. Hein, c'est un impôt qui est silencieux, personne ne crie contre l'offre de jeu, qui est volontaire, on force personne, et qui est progressif. Donc pour l'État, il ne s'agit pas du tout de tuer la poule aux œufs d'or, donc il faut effectivement prendre en compte justement tous les effets négatifs du jeu qui existent. Ça c'est clair et net, aujourd'hui il y a consensus pour le reconnaître. Moi le seul défaut reproche que je ferais, c'est qu'on en a encore aujourd'hui beaucoup au stade de l'audit, de l'observation, de vouloir faire des recherches, combien de joueurs, etc. Alors que la réalité, elle est quand même, elle est là, elle est sous mon nez en tout cas, sous mes yeux. Des joueurs qui perdent le contrôle, qui savent plus quoi faire, qui s'entêtent dans le jeu pour se refaire, qui font qu'aggraver des difficultés. Il y en a des.
C'est une réalité très concrète.
Il y a des légions entières. Il n'y a pas grand chose encore aujourd'hui pour, j'allais dire, améliorer l'éducation du joueur finalement face au jeu. C'est-à-dire que le joueur, il doit savoir un petit peu où il met les pieds. Il sait pas trop où il va quand il entre dans le jeu. Mais on entre, on ne sait pas quand on en sort, et mieux vaut savoir quelques règles à l'avance, j'allais dire. La pédagogie peut être un outil intéressant, l'encadrement, l'outil législatif, c'est certes essentiel, mais je crois qu'il faut aussi faire un peu plus d'informations, plus de pédagogie, que les joueurs puissent discuter plus librement de leurs problèmes de jeu, ce qui est pas très facile aujourd'hui.
Qu'est-ce qui fait que ça n'est pas très facile?
On le cache, c'est-à-dire que on le cache, on le paie, et plus on stigmatise jeu égale drogue, si vous voulez, la force de mettre des publicités, par exemple, ça part d'une bonne intention, mais jeu peut conduire à l'endettement, à la dépendance, etc. On est en train de faire une association jeu égale drogue.
Alors, c'est contre-productif pour vous?
C'est-à-dire que le joueur, on stigmatise, c'est-à-dire
on le culpabilise.
Qu'un drogué réel ou en puissance.
Alors je vous laisse terminer Pierre Perret, oui. Et puis je me tournerai vers Stéphane De Hoole.
Juste pour en finir, c'est,
oui, je vous en prie.
Essentiel, c'est que le joueur puisse mieux vivre son jeu. Aujourd'hui, il le cache, il le teste, c'est une pratique honteuse. Et le joueur c'est jamais, enfin, se laisse emporter par toutes les plaisirs à jouer et ne sait plus par quel bout prendre le problème de jeu quand il se pose. Il se pose souvent très très vite et le joueur s'entête,
d'autant plus qu'il ne parle pas.
Et à ce stade-là, il y a beaucoup de choses à faire, si vous voulez. Il y a, au stade de avant d'en arriver à un stade de dépendance, on peut essayer d'agir en amont. Dans les casinos, par exemple, mine de rien, il y a de la proximité qui se crée entre des référents qui peuvent aborder clairement le problème de jeu avec des joueurs, qui passent des contrats, même moraux. Donc dès qu'il y a dialogue, dès que le joueur parle de son problème de jeu, il y a une reprise de contact avec la réalité. Donc il y a des choses intéressantes en fait à faire sur ce terrain de la proximité,
dans proximité difficile jeu. Face à un écran. Stéphane De Hoole, la vie psychique qu'a évoqué Pierre Perret, vous, c'est un peu votre travail. En tout cas, vous recueillez des joueurs qui n'arrivent plus à s'en sortir.
Oui, il y a les joueurs qui ont du mal à s'en sortir et où effectivement, alors le jeu n'est pas forcément systématiquement égal drogue, comme le disait Monsieur Perret, mais par contre ça peut l'être quand même dans certains cas. Il y a ces histoires de big win que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire la rencontre avec le gain qui va conditionner la vie du joueur. Ensuite, il y a aussi la question que le joueur doit se poser, pourquoi je joue finalement? Souvent quand on pose cette question au joueur, il va vous dire pour gagner. Gagner de l'argent, bon, mais quand on creuse un peu, ça peut être aussi pour ressentir des sensations, pour combler l'ennui, parfois même pour perdre et s'auto-punir. Donc il y a toutes ces questions-là qu'il faut se poser, et puis après, il faut bien se dire que on fonctionne tous avec des distorsions cognitives, de fausses croyances, et les joueurs plus fragiles par rapport à ça peuvent aussi être victimes de la pratique du jeu. Par rapport à ces distorsions cognitives.
Alors justement, ces joueurs fragiles, Stéphane De Hoole, que vous recevez, est-ce que vous pouvez nous en dresser des profils, parce que j'imagine qu'il n'y en a pas qu'un, mais peut-être pour les voisins qui nous écoutent et qui pourraient se reconnaître ou reconnaître leur conjoint ou leur enfant, qu'est-ce qui conduit un joueur à se laisser happer, se laisser complètement engloutir par ce qui était censé être un loisir et une détente?
Alors, vous disiez tout à l'heure que le jeu ne connaissait pas la crise, et peut-être que justement parce que il va y avoir des difficultés financières, par exemple, au sein d'une famille, eh bien, le jeu va se mettre plus facilement en place. Déjà, ça, c'est un premier critère. Ensuite, il va y avoir des profils de joueurs, des joueurs qui vont être plutôt vulnérables émotionnellement, avec de l'anxiété, de la dépression, qui vont, à travers le jeu, essayer de réguler un petit peu ces émotions négatives, un certain temps en tout cas. Il y a ceux qui vont faire une rencontre avec le jeu et qui vont justement avoir ce big win, c'est-à-dire, vous savez, la chance du joueur.
La chance du novice.
Voilà, c'est ça. Et du coup, ça peut conditionner une pratique de jeu. Et puis après, on va avoir des personnes qui seront plus dans l'impulsivité, qui vont avoir des polyaddictions, des antécédents familiaux. Qui peuvent aussi...
Il y a des familles dans lesquelles il y a une culture du jeu, très clairement. Ouais.
Après, moi, je rencontre un peu plus d'hommes que de femmes. Et puis, pour les personnes qui ont réussi, en tout cas, on ne peut pas parler forcément d'un arrêt du jeu définitif, mais pour certaines personnes qui se sont sorties de leur problématique, eh bien, effectivement, on rencontre la difficulté des casinos illégaux qui relancent très régulièrement ces joueurs, qui leur offrent des bonus afin de les reconditionner. C'est vraiment un gros problème. Et ces joueurs-là, voilà, essayent de résister. Mais ça peut être vraiment une cause de rechute.
Donc à moins d'éteindre leur ordinateur, de ne pas avoir de contact avec la vie numérique.
C'est plus de travailler vraiment sur le fond avec ces joueurs pour voilà qu'ils puissent prendre cette distance eux-mêmes sans forcément se couper du monde, etc. Mais ça reste compliqué d'être sollicité très régulièrement par ces sites.
Charles Coppolani, Monsieur Perret évoquait tout à l'heure la poule aux œufs d'or en parlant des jeux en ligne. Est-ce qu'on a une idée du volume en termes de chiffre d'affaires que représentent les jeux en ligne ? On parle bien entendu des jeux légaux.
Alors, je pense que M. Perret parlait de la poule aux jeux d'or pour l'ensemble des jeux, pas vraiment pour, uniquement pour les jeux en ligne. Parce que pour les jeux en ligne, on peut dire que les espérances qui avaient été placées par certains en 2010 ne sont pas au rendez-vous.
Alors, quelles étaient ces espérances ?
Alors, on pensait effectivement, je pense que les jeux en ligne allaient connaître un boom extraordinaire. En fait, si on regarde ce que sont les mises actuellement, c'est environ 8 milliards d'euros sur l'année pour les jeux en ligne, sur 44 milliards pour l'ensemble des jeux. Donc, c'est-à-dire environ 18%. Le chiffre d'affaires de l'industrie des jeux en ligne, c'est-à-dire la dépense en fait des joueurs, c'est 725 millions d'euros, ce qui est important, ce qui est pas négligeable, mais qui est par rapport à la totalité des jeux quelque chose de très limité. Là-dessus, alors par rapport à l'État sur les jeux en ligne, hein, je dis bien uniquement sur les jeux en ligne, prélève environ 324 millions d'euros. Donc, c'est-à-dire, vous voyez, on est près de 40% de ce qui du chiffre d'affaires de
donc
cette industrie.
Donc, il n'a aucun intérêt à ce que ça s'arrête.
Oui, mais en même temps, l'État, si vous voulez, ces sommes vont en partie à la Sécurité sociale, notamment pour précisément permettre de prendre en charge les addictions. Et donc, l'État, par rapport... Pour le budget de l'État, ce n'est pas les jeux en ligne, ce n'est pas quelque chose d'extrêmement important. 325 millions sur la totalité du budget de l'État, c'est vraiment quelque chose de limité.
Bon,
donc,
si
l'État a autorisé les jeux, c'est pas pour des raisons fiscales.
Et c'est pour des raisons.
C'est d'abord pour précisément réguler une offre.
La musique tout de suite de Esther Rada dans cette milliard de voisins où on parle de jeux en ligne. Comment ça se passe chez vous ? Est-ce que vous aimez ? Est-ce que vous vous en méfiez ? Est-ce que vous êtes repenti ou au contraire vous avez envie de vous jeter dedans à corps perdu ? Dites-nous tout, 33 1 84 22 71 71. Feeling good, Esther Rada.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breathe if it all by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the trees, you know exactly how I feel. Yes, you do. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean. Butterflies, oh, heaven fun, you know what I mean. I said, sleep in peace when day's done, that's what I mean. And this old world is a new world, and a bold one for me. Feeling.
a scent of a pine. You know exactly how I feel.
Je me demande ce que Nina Simone, la grande, aurait pensé de la reprise de sa chanson que vous aurez évidemment tous reconnu, mélomanes que vous êtes, les voisins. Aujourd'hui, nous parlons des jeux en ligne avec nos trois invités, deux en dehors du studio, le fondateur de l'Institut du jeu excessif, Pierre Perret, et le psychologue Stéphane Dehoul, et en studio avec nous, Charles Coppolani. Monsieur Coppolani, vous avez un courrier de l'un de nos voisins qui est bordelais. Il s'appelle Cédric et il est joueur en ligne. Il nous dit, j'ai découvert les jeux en ligne en 2007 par une publicité. Jusqu'en 2010 et la légalisation, je jouais en ligne et étais actif sur les forums de joueurs. 6 mois après la légalisation, j'ai arrêté car l'ARJEL, qui est l'autorisation de régulation des jeux en ligne que vous présidez, impose des cotes trop basses. J'ai repris en juin dernier lors de la Coupe du Monde. L'ARJEL fait du mal parce que depuis la démocratisation des paris en ligne, il y a une multiplication de joueurs peu informés qui ne connaissent pas les différents aspects des paris et se croient de bons joueurs. C'est pour eux que c'est dangereux. Et l'ARJEL ne remplit absolument pas son rôle d'information sur le jeu. Ça pourrait être bien d'avoir une institution qui fasse véritablement de la pédagogie, qui dise, attention, les jeux en ligne, c'est très bien, mais c'est dangereux, il y a des règles, des codes à connaître pour se protéger. Mais ce n'est pas du tout le cas. Tout ce que fait l'ARJEL, c'est permettre aux organisateurs de faire leur publicité. Qu'est-ce que vous répondez à Cédric ?
Je réponds qu'il a une perception qui est sans doute erronée, parce que effectivement,
il est pratiquant en tout cas.
Il est pratiquant, c'est vrai, mais je pense que sa vision des choses n'est pas exacte. D'abord, l'ARJEL fait beaucoup pour la protection des joueurs.
Est-ce que c'est suffisamment de pédagogie ?
Écoutez, je vais vous expliquer ce que fait l'ARJEL. D'abord, l'ARJEL s'assure que les paris qui sont offerts sont des paris qui sont conformes à la loi. Deuxièmement, que les opérateurs de jeu remplissent toutes leurs obligations en matière de protection des joueurs. C'est-à-dire notamment qu'ils offrent des limitateurs de jeu aux joueurs. Limitateurs de dépôt, limitateurs de mise, seuil de reversement. L'ARJEL aussi s'assure que lorsqu'un joueur s'auto-exclut, cette auto-exclusion est bien respectée. Lorsqu'il s'interdit de jeu, que cette interdiction est respectée. Elle s'assure aussi qu'à tout moment, le joueur ait la possibilité de savoir le montant des mises qu'il a mis, le montant de ses dépenses, l'historique de ses activités de jeu. Elle s'assure aussi que les opérateurs remplissent toutes leurs obligations, et notamment nous les surveillons à travers divers éléments, et notamment un rapport que les opérateurs font, et nous évaluons l'action des opérateurs.
Donc vous agissez beaucoup auprès des opérateurs.
Nous agissons beaucoup auprès des opérateurs. Nous avons aussi un site auquel les joueurs peuvent se reporter, sur lequel nous donnons beaucoup d'éléments, beaucoup de conseils. Et il y a un point que vous avez mentionné, qui est un point important dans ce qu'a dit le joueur.
Oui.
Il indique qu'effectivement, nous autorisons nous incitons les opérateurs à avoir une cote basse, c'est-à-dire en fait un taux de retour joueur bas. Alors effectivement, en France, le taux de retour joueur est plafonné pour les paris sportifs et pour les paris hippiques. Et pour une raison très simple, c'est que, et ça a été très bien dit à la fois par Pierre Perret et par M. Dehoul, c'est qu'effectivement, un joueur devient addict à partir du moment où il a beaucoup de petits gains, voire de gros gains. Et donc nous veillons à ce que tout cela soit raisonnable.
Pierre Perret, comment réagissez-vous à la lettre de Cédric ?
Bah, vous savez, enfin, le joueur c'est un râleur avant tout. Moi, tous les joueurs sont des râleurs. Donc, quelques systèmes qui soient en face, je pense qu'il y aurait eu matière. On peut toujours trouver à redire. Il faut.
Mais on peut aussi imaginer que les choses peuvent être améliorées sans râler.
Non, mais ce que j'allais dire, c'est que les missions de l'ARJEL sont bien définies. son rôle est quand même est clair et puis est tout à fait respectable. À lui, j'allais dire qu'il y a presque trop de contraintes même. Oui, c'est presque trop bien fait. Il y a beaucoup de contraintes pour les opérateurs, il y a beaucoup de taxation aussi. Donc tout ça va quand même dans la défense d'un modèle économique qui est protégé, où on sait où on met les pieds, avec la certitude pour le joueur aussi d'évoluer dans le milieu sécurisé. Donc l'organisation des jeux est quand même... Et le rôle de l'argent, il n'y a pas de souci majeur là-dessus. Moi, ce que je trouvais intéressant, c'est de...
Oui, rapidement, s'il vous plaît.
L'auditeur a parlé de pédagogie.
Oui.
Stéphane aussi en parlait de pédagogie en disant, finalement, pour le joueur, ce qui est intéressant aussi, c'est de comprendre son plaisir à jouer. Ça, c'est quelque chose qui est un débat nouveau. C'est que le jeu, finalement, pour faire peut-être une synthèse, c'est un paradoxe vivant. C'est-à-dire que ça fait et du bien et du mal en même temps. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a une dimension de drogue qu'on a évoquée, mais il y a aussi une fonction thérapeutique à jouer, qui est indéniable. Et s'il y a 30 millions de joueurs qui jouent et qui continuent à jouer malgré en dépit des pertes, c'est bien parce qu'ils trouvent... Il n'y a pas que l'argent, si vous voulez, dans le jeu. Et comprendre pourquoi on joue, quelles sont les raisons profondes, ces motivations profondes qui nous poussent à jouer... Ça, c'est un défi qui est très intéressant pour rendre le joueur un peu plus adulte, pour qu'il réfléchisse mieux son jeu. Parce que des fois, plutôt que de vouloir lutter contre une addiction ou lutter contre un problème d'accoutumance, déjà, dans le premier temps, c'est important de pouvoir le gérer.
Merci beaucoup. Il est temps de nous quitter. Merci Pierre Perret, Stéphane Dehoul. Je suis navré, je ne vais même pas quelques secondes. Vous pouvez tout simplement nous dire au revoir. C'est l'espace que je peux vous laisser. Merci à tous trois d'être intervenus. Merci à nos voisins et merci à vous les voisins pour votre attention. Ainsi qu'à l'équipe 7 milliards, Romain Dubrac, Éléonore Kranik, Didier Cherouz. Rendez-vous demain, les voisins, mais tout de suite, ce sont les informations. À demain.